R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Donc, bonsoir à tous. On est dans le ciné-débat de l'atelier des vents, du vent. L'atelier du vent à Rennes, après la projection du film L'histoire des jeunes par nous. Et du coup, nous allons débattre de ce film sur les gilets jaunes et comment on peut relier un film sur les gilets jaunes et les gilets jaunes au mode d'action et ce qui se passe en ce moment. Et après, on peut aller, on peut dépasser l'axe de débat et débattre de ce que vous avez ressenti et ce que vous désirez. Qui veut prendre la parole ?
Déjà, en tant qu'ancien gilet jaune, très très bon film, ça rappelle énormément de choses. Donc au niveau émotion, ça c'est très très fort. Et première remarque que je voulais faire, c'était sur le mot apolitique et apartisan. Parce que souvent on confond les deux, et même dans le film on a confondu, enfin il y a une confusion. C'est-à-dire que les gilets jaunes, on avait entre nous, on parlait ni de droite ni de gauche, on était apartisans. Les partis politiques justement, on les mettait à l'écart. Et pourtant le mouvement était très politique. C'est-à-dire qu'on veut changer les choses, et notamment le RIC, qui était une des revendications assez fortes du mouvement, et un outil démocratique très très puissant, et c'est très très politique. Donc dire que le mouvement était apolitique, je pense que c'est pas le bon mot, faudrait dire apartisan, en dehors des partis politiques. Souvent on pense politique avec les partis, l'élection, et à chaque fois on part sur ce truc qui nous bloque en fait.
Moi je vois pas à quel moment c'est dit que c'est apolitique. Mais juste pour être un petit peu subversif, je me demande aujourd'hui si je ne suis pas partisan des Gilets jaunes, partisan du mouvement, partisan de la Révolution. Et qu'est-ce que ça veut dire un partisan aussi, finalement ? Mais c'est à quel moment qu'on dit que c'est apolitique ? Ah oui. Pas dans la voix off, mais dans un interview, ouais.
Non, du coup, ça m'a interpellé parce que justement, mes partisans, vraiment apartisans des partis politiques. Donc il faudrait le dire complètement, et partisans des Gilets jaunes. Ça se tient aussi.
Merci beaucoup pour ce travail de ouf. Ce documentaire, il m'a mis une grosse claque, moi. C'est le meilleur truc sur les gilets jaunes que j'ai jamais vu, quoi, clairement. L'aspect historique, il est hyper précieux. Et en l'occurrence, là, il est vraiment hyper riche. Il montre des perspectives politiques de manière très claire, quoi. Enfin, des perspectives, en tout cas, un parcours politique très clair. Ce dont on causait avec le camarade dehors sur le côté se passer de tout ce qui va mettre de l'ordre dans ce qu'on fait, et notamment les syndicats, quoi. Là on voit bien aujourd'hui qu'on est quand même assez kéblo derrière eux, quoi, qu'on a du mal à se passer des syndicats aujourd'hui là dans le mouvement. Par rapport à ça, je me posais une question, moi, c'est sur le fameux RIC. C'est-à-dire que il me semblait que le RIC n'était pas non plus forcément quelque chose d'hyper porté par tout le monde au sein des Gilets jaunes. Et je crois qu'au sein des assemblées notamment, c'était quelque chose qui faisait quand même débat, quoi, qui faisait pas du tout l'unanimité. Et j'aurais bien aimé avoir un peu d'éclaircissement sur ce truc-là, parce que ça passait, je pense, quand même pas mal pour un truc citoyenniste. Et en même temps, dans les gilets jaunes citoyennistes, quand on voit le drapeau français, la Marseillaise qui est chantée, tout ça, qui est remis dans un nouveau contexte où ça se réapproprie, ce truc-là, parce que, comme c'est dit dans le documentaire, c'est le seul truc qu'on a en commun, qu'on peut chanter ensemble. Bon, il s'avère qu'il y a quand même plein d'autres trucs qui sont chantés et qui font du commun au sein des gilets jaunes. Est-ce que c'est pas aussi un élément potentiellement pacificateur, le RIC ? Et qu'est-ce qu'on pourrait voir comme perspective dans une... Parce que il y a aussi, j'ai l'impression que moi, avec l'appel de Commercy de base, c'est un appel aussi à un point de départ pour quelque chose qui peut-être ressemblerait à la commune. Est-ce que le RIC, c'est quelque chose qui pourrait conduire à ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui empêche ça ? Est-ce que c'est le chemin vers une 6e République ? Du coup, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut dire du RIC ?
Moi, je pense que ce qu'on peut dire du RIC, déjà, c'est que c'est une idée qui émerge de personnes qui sont d'abord, avant d'être politisées, avant d'être quoi que ce soit de totalement idéologique, c'est surtout des personnes, en fait, qui étaient dans la galère et qui se sont réunies, ont trouvé des points communs autour du fait d'être dans la galère financièrement, à cause du système capitaliste, hein, bien sûr. Eux, c'est aussi des idées, en fait, qu'ils proposaient. C'est-à-dire que c'est comme c'est un mouvement qui est extrêmement démocratique, où tout le monde justement refusait les têtes pensantes, refusait les personnes qui justement se targuaient de vouloir porter tout le mouvement à elles toutes seules. Il y a des propositions comme ça qui ont émergé, et le RIC, ça fait partie des propositions. Après, est-ce qu'on est forcément obligé de se dire que c'est la finalité ou c'est une finalité ? Est-ce qu'on est obligé de se dire que c'est quelque chose de très important ? Ça, en fait, c'est encore une fois quelque chose qu'on doit remettre dans le débat démocratique, qu'on doit remettre dans les débats d'assemblée, se dire est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que c'est ça qu'on veut en fait de manière générale. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable, est-ce qu'on veut une commune, enfin qu'est-ce qu'on veut en fait pour plus tard. Et c'est vraiment l'idée de, pour moi, se définir un but collectif et essayer de l'atteindre politiquement en fait, au-delà de tout ce qu'ils ont pu proposer et peut-être parmi les choses qu'ils ont pu proposer aussi, en fait.
Alors moi, avant des gilets jaunes, je suis toujours militant pour la démocratie, et du coup, le RIC, c'est un truc que je connais un peu... pas mal, on va dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Le RIC, il ne faut pas le voir comme une finalité, il faut le voir comme un outil, en fait. C'est un outil qui va nous permettre d'avoir le reste. C'est un outil qui peut être à la fois législatif, donc si on veut proposer des lois... On peut imaginer, proposer une loi qui interdit aux gens qui ont un casier judiciaire, par exemple, d'être élus de la République. C'est un exemple. Donc on peut proposer des lois que nos dirigeants oublieraient de faire, par exemple. Ça peut être constituant, justement, pour changer la Constitution, parler d'une 6e République ou une première démocratie, au choix, peu importe le nom, mais de changer de gouvernance qui permettrait d'accéder auprès au débat. Se donner les moyens d'eux, en fait. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, un des premiers RIC à faire, ça serait sur les médias. Une fois qu'on a l'outil RIC, il faudrait légiférer pour changer les médias. Parce que les médias dominants aujourd'hui sont 8 milliardaires qui possèdent tous les médias dominants. C'est une catastrophe au niveau de l'information. France Télévisions, Radio France, les présidents de chaîne sont nommés par le président de l'exécutif, donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le président de l'AFP est nommé par le président de la République, donc pas de séparation des pouvoirs, etc. etc. On peut parler du 49-3 aussi, qu'on pourrait supprimer avec un RIC, constituant. Donc, le RIC, il faut le voir vraiment comme un outil très puissant pour aller chercher justement une vraie démocratie. Séparation des pouvoirs, contrôle des pouvoirs, revoir le législatif pour faire du législatif peut-être plus local aussi, au niveau régional, voire communal. Toutes ces questions se posent. Le RIC, c'est vraiment à la fois un outil et la porte d'entrée pour avoir le reste. Et le référendum, en soi, c'est... Il y a des sondages, il y a des associations, notamment Article 3 qui militent pour le RIC depuis des années. Les sondages montrent que les Français sont d'accord sur le référendum et qu'ils veulent les référendums à 80 ou 90%. Donc militer pour un outil qu'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est une question de stratégie après, mais c'est peut-être plus simple aussi d'aller vers quelque chose que les gens connaissent un peu le référendum.
Moi, du coup, ouais, moi aussi, j'étais dans le mouvement des Gilets jaunes. Moi, quand le RIC est apparu comme une proposition qui émergeait et qui commençait à faire quand même consensus un peu partout, à la fois j'ai l'impression que cet outil il a émergé aussi parce que passé la période la plus intense en termes de mobilisation du nombre de personnes dans la rue, sur les ronds-points, etc., j'ai l'impression qu'il y avait quand même besoin de perspectives concrètes, d'idées concrètes, de en fait qu'est-ce qu'on peut essayer d'obtenir. Autre que le renversement de Macron, etc. Et j'ai l'impression que le RIC, ça a été peut-être l'outil le plus concret que les gens ils aient imaginé, et aussi parce qu'il y a eu des équipes qui ont beaucoup fait sa promotion, et enfin, notamment une bande autour de Étienne Chouard, qui est quand même un type un peu particulier de par ses relations avec l'extrême droite, tout ça, font des prises de position de plus en plus bizarres. Et lui, il a été très actif dans le mouvement, il a fait beaucoup de conférences, il est avec Maxime Nicole notamment, qu'on voit dans le film comme un des youtubeurs un peu leader autoproclamé. Moi, j'avoue, le RIC, il me faisait peur, pas en tant qu'outil, mais dans le sens de si le pouvoir acceptait de faire passer un espèce de truc appelé le RIC, j'avais peur qu'en fait ça fasse rentrer tout le monde chez soi et que ce soit la fin de ce mouvement qui pour moi en fait voulait plus que ça. Bon, en l'occurrence, Macron il s'est pas dit je vais faire un faux RIC pour les calmer, il a pas fait le truc. La question s'est pas posée. Mais je sais qu'en tout cas moi dans les débats auxquels j'ai pu participer, et tout à l'heure tu posais la question par rapport aux assemblées des assemblées, J'ai l'impression que la tension, elle était là-dessus. Elle était plutôt en termes de gens qui disaient il faut se battre sur cet objectif-là, plus concret, peut-être plus réalisable, entre guillemets, même si on en est loin. Et d'autres qui imaginaient une ambition de transformation beaucoup plus large. Et effectivement, l'appel de Commercy est une des tendances, en tout cas, de ce qui a tenté d'être transmis dans l'Assemblée des Assemblées. C'était plutôt l'idée de construire des groupes locaux et travailler à partir de ça. Là où le RIC était vu comme quand même un outil qui renvoyait un truc très... on essaie d'influer sur en haut, ce qui n'empêche pas de travailler à la base, mais il y avait quand même cette idée-là, quoi. Et que j'ai l'impression qu'il y avait aussi, dans la proposition du groupe de Commercy, en tout cas de certaines personnes, de vraiment essayer de travailler sur les collectifs, sur les assemblées. Et d'ailleurs, à Commercy, il y a eu, alors pas au niveau de l'ensemble du groupe, mais une petite partie, une tentative de faire une liste pour aller à la mairie, pour construire une assemblée citoyenne, qui n'a pas réussi. Et qui a, pour le coup, fait beaucoup de mal au groupe parce que c'est une stratégie qui n'était pas du tout soutenue par l'ensemble du collectif. Et passer la défaite au municipal de 2020, je crois, ça a été un peu compliqué aussi pour ce collectif. Je crois qu'ailleurs, c'était aussi toujours des objets de clivage, quoi, ces stratégies-là. Enfin, au-delà de quand tu avais une personne qui faisait une liste, ça, tu le montres dans le film, mais ça, c'est un peu à part. Même quand des collectifs tentaient d'aller sur le terrain collectivement municipal, c'était quand même assez compliqué, quoi. Mais il y a quand même eu, dans un petit village à côté de Commercy, il y a une expérience comme ça qui se met en place avec deux anciens gilets jaunes qui ont construit ce truc et qui, pour le coup, marche très bien. Après, c'est vraiment un tout petit village, c'est, je crois, 350 habitants. Et tout se fait collectivement, tout se fait en assemblée populaire. Il y a une participation en termes de pourcentage qui est énorme. Après, c'est pas très médiatisé parce qu'ils veulent rester discrets pour le moment et construire leur truc. Mais petit à petit, ils réfléchissent à en parler aussi pour essayer de convaincre. Notamment, là, ils travaillent sur tous les villages alentours pour essayer de leur montrer les bienfaits de ce qu'ils font et de comment ça permet de dynamiser le village, etc. Ils le font pas en tant que gilets jaunes parce que déjà, c'est une démarche beaucoup plus large que les gilets jaunes. Et dans ce village, il n'y avait pas forcément beaucoup de gilets jaunes.
On est dans un paradoxe, c'est que c'est gilets jaunes un jour, gilets jaunes toujours. Et en même temps, c'est pas un but dans la vie d'être gilet jaune, quoi. C'est quand on aura gagné, quand on n'aura plus à le mettre, quoi. Et moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce courant, c'est que le 17 novembre, quand on s'est tous retrouvés, il y avait deux sortes de gilets jaunes. Il y avait ceux qui avaient cru au système et qui se rendaient compte qu'ils étaient perdants, et ceux qui attendaient la rébellion depuis toujours, parce qu'ils ont toujours une pensée alternative, quoi. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que les gilets jaunes sont devenus des citoyens compétents. Ça rend d'autant plus les autres impotents, on va dire. Mais ce qui était super beau, et toute cette question du RIC, c'est comment reprendre son pouvoir, mais pas le pouvoir pour le pouvoir, son pouvoir de citoyen. Et donc, sa forme d'intégrité, quoi. Et donc, les gilets jaunes, ils sont toujours résumés au samedi. Mais moi, je faisais au moins 3 réunions dans la semaine, le soir. On se faisait des groupes où quelqu'un qui connaissait bien le RIC expliquait aux autres. On faisait des groupes de discussion. Et j'ai remarqué très vite qu'on avait besoin de se donner un but pour avancer. Et que ce qui comptait, ce n'était pas que le but il soit atteint ou pas. Mais on avait construit des relations en faisant cette chose. Ça, c'était vachement beau. Et donc, en fait, ça fait bizarre de résumer en surface, en fait, ce qu'étaient les gilets jaunes, quoi. C'est pour ça que là, c'était vachement émotionnel. Parce qu'au début, j'étais dans l'émotion, tout revient et c'est cadeau, quoi. Et au fur et à mesure, on se dit, putain, on en est où, là? Waouh. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors maintenant, comme toute connaissance, ce qui est acquis est acquis. Les gens, ils vont pas revenir en arrière. Maintenant, je sais pas quel espoir donner à ça, mais je pense que... Ouais, j'espère qu'on a été l'étincelle. Ce que je trouve génial aujourd'hui par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est qu'on ne se rendait pas compte à quel point... Enfin, je dis on, voilà, je suis... on a inventé plein de trucs. La façon de raisonner, déjà de ne pas manifester devant des groupes établis. Moi, c'est un truc, je n'imaginais pas dès le début qu'on arrive à ne pas avoir de chef. C'est quand même quelque chose, je trouve, d'énorme. Le fait de réussir à ne jamais avoir eu de chef. et jusqu'au bout, quoi. Et bah, moi, je trouve que rien que pour ça, on a toujours été cohérents, en fait. C'est là où je trouve que c'est un courant vachement puissant, en fait. On a toujours été cohérents entre les revendications de base et ce qu'on en a fait. Alors maintenant, est-ce que c'est dissous ou pas? Je ne sais pas.
Un petit peu dans la continuité de ce que tu viens de dire et en réaction à moi, aux réactions que j'ai pu voir à la fin du film, peut-être un peu pessimiste par rapport au mouvement social d'aujourd'hui, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qu'on, dans le sens où qu'est-ce que la capacité populaire à s'organiser en mouvement social avait au moment des Gilets jaunes, qui nous manquerait aujourd'hui, histoire de ne pas être trop pessimiste non plus, qu'est-ce qu'on en a gardé?
C'est une vraie question?
Oui.
Vas-y.
Un début de réponse, déjà, c'est la masse. Je pense qu'on est quand même pas très nombreux en ce moment de sortie dehors. Le taux de grève est assez faible. On suit les syndicats, donc même pour se voir, pour se rassembler, pour faire du lien, faut attendre les manifs des syndicats. Donc là, on est content d'avoir un lieu comme ici pour arriver à se rassembler, pour discuter. Donc ça, c'est un gros manque aussi par rapport au mouvement Gilets jaunes, où t'allais sur un rond-point, tu pouvais faire du lien et savoir ce qu'il y avait comme action. Donc c'était beaucoup plus puissant. Et puis l'aspect politique, hein, parce que je sais que la semaine dernière, on est venu à l'AG ici et on est sorti un peu triste dans le sens où on a parlé que d'une loi, en fait, la loi retraite. Et je pense que le problème, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. C'est même pas la démission de Macron qu'il faut, c'est le changement de gouvernance, en fait. Si tu as une république qui permet d'avoir un mec comme Macron au gouvernement, demain, ils vont trouver l'oligarchie financière va en trouver un autre. Ça ne sera pas lui, ils vont en trouver un autre et on ne changera pas le problème. Et pareil, s'attaquer qu'à une loi, mais je veux dire, des lois, ils en pondent des dizaines par an, voire plus. Là, ils ont passé une loi sur la biométrie, surveillance de masse, c'est super inquiétant. Et ça reste qu'une loi. Donc si on se bat que contre une loi, voilà. Donc là, ça manque, pour moi, il manque la petite étincelle politique d'aller chercher au-dessus de la contestation sociale de base de la retraite, quoi.
Ouais, moi, ma réponse, c'est qu'il y avait une putain de force de vie, quoi, de joie de vivre, et que là, les retraites, c'est devenu un mouvement social. Tout est perverti par le système qu'on pourrait dire médiatique, que moi, j'appelle de propagande, et on ne peut pas lutter à armes égales. Et en fait, les Gilets jaunes, ils n'ont jamais voulu s'attaquer à ça, enfin... Quelques courants comme Barreau et tout ça qui vraiment bougent au niveau des grands médias à Paris, quoi. Mais c'est le nerf de la guerre, en fait. Et donc, en fait, nous, on a passé notre temps à se mettre des balles dans le pied aussi. C'est-à-dire qu'en virant des journalistes, on leur reprochait de ne pas assez nous rendre visibles. Et en même temps, on était obligés de les virer parce qu'ils pervertissaient notre message, quoi. C'était compliqué. Et en fait, on a toujours été comme ça, dans une schizophrénie comme celle du gouvernement, en fait. Et au final, ce qui est terrible, c'est de voir que tout ce contre quoi on s'est battu est passé comme une lettre à la poste. Et on finissait par être dans un monde parallèle. Il y avait le cortège qui défilait, la ville, mais ils étaient là avec leurs petits sacs, ça changeait la vie de personne. C'était flippant, quoi. Et aujourd'hui, c'est pareil. En fait, il y avait la volonté de faire corps. En fait, on était minoritaire, on se vivait comme majoritaire. Et du coup, ça nous donnait une putain d'énergie. On était en manif, mais on était portés, on avait l'énergie pour la semaine, quoi. Et là, c'est un peu une fête, mais voilà.
Oui, c'est le fait de se sentir soutenu par la majorité, la grande majorité du pays. Ça l'était pour les Gilets jaunes, ça l'est dans le mouvement social actuel. Je crois que ça donne de l'énergie aussi. Moi, je n'ai pas participé aux Gilets jaunes. J'étais à l'étranger, j'étais en Angleterre à ce moment-là. Ce qui est intéressant d'ailleurs, de voir de l'extérieur, de l'étranger. On a vu d'ailleurs, je crois, oui, les Yellow Vests dans le film à un moment. Moi, je voulais revenir sur la question de la représentation d'une organisation éventuelle. Sur le problème de la démocratie horizontale, démocratie intégrale et intégralement horizontale. Puisqu'il a été évoqué un petit village, 250 habitants, je ne sais plus... Voilà, où ça marche. Alors on bute toujours sur le même problème, le problème de l'échelle, le problème de la démographie, on pourrait dire. Souvent, on cite la Suisse pour parler de démocratie directe. Hein. On cite les cantons suisses, mais justement, ce sont des petites unités, des petites cellules où ça marche. Alors moi, c'est quelque chose, c'est vraiment un problème qui me taraude. Comment faire pour s'organiser quand effectivement on est non plus avec quelques centaines, quelques milliers de citoyens, mais plusieurs millions. Et quand on refuse une organisation verticale, voilà, comme c'est le cas apparemment, ou c'était le cas, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, c'est une grande question, malheureusement, je n'ai pas la réponse forcément.
Je voulais juste dire que justement, dans toutes ces soirées qu'on animait entre nous, on a beaucoup, moi je travaillais plutôt sur les modes de gouvernance collectifs et partagés. Et donc en fait, il y a eu plein d'initiatives, d'essais. En fait, on a tenté plein de choses.
Points qui ont été cités, donc déjà premièrement celui de la question de pourquoi, et je n'ai pas la réponse, je donne simplement quelques éléments, je n'ai pas la vérité universelle, hein, loin de là, juste je vais donner deux ou trois éléments de ce qui me semble être les soucis. Donc premièrement par rapport au mouvement maintenant et par rapport à l'organisation à grande échelle. Par rapport au mouvement maintenant, il y a quelque chose qui me semble absolument essentiel et qui manque aussi au-delà du nombre, même si le nombre est important, c'est aussi l'organisation, la capacité d'organisation collective, dans le sens où, bah, par exemple, je suis allé faire les blocages ce matin et on a été très très vite arrêté par la police parce que les heures, par exemple, qui sont indiquées sont les heures 30 minutes plus tard. Donc les gens ne commencent à débrayer, enfin les gens arrivent à 9h30 et quelques, commencent à débrayer après, et donc ça laisse aux policiers le temps de venir. Pareil, les messages qu'on s'envoie sur les réseaux sociaux, pour la plupart, ne sont absolument pas cryptés. Donc comment est-ce que vous voulez organiser un mouvement qui soit contestataire si on ne cache pas un minimum ce qu'on fait, ou si on ne prend pas un minimum au dépourvu les forces de l'ordre? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand les flics ce matin, par exemple, je prends vraiment le cas concret de ce matin, hein, qui m'a extrêmement énervé, quand les policiers sont arrivés, tout le monde est resté statique. C'est comme si les gens n'avaient plus de force et n'avaient plus d'énergie. Donc je comprends au bout de semaines et de semaines de manifestations qu'il y ait des fatigues. Hein, même moi, j'ai lâché à un moment donné, hein, ça arrive à tout le monde. Quand on est en manif, la Condé mobile arrive, on bouge. On ne reste pas sur place. On était trois sur une cinquantaine de personnes. On était trois à partir à se ruer vers le métro pour aller sur un autre point de blocage où les flics n'étaient pas encore arrivés. Et on a dû malheureusement prévenir l'université, la G de Rennes 2, que y a deux points de blocage en moins. Il y avait deux points de blocage en moins ce matin parce que les gens n'avaient pas fui. Et ce n'est pas grave de fuir. Des fois, il faut fuir pour faire des points plus forts à d'autres endroits, quoi. Voilà, donc ça c'était par rapport à tout ce qui est le mouvement aujourd'hui, la notion d'organisation qui manque. Et le deuxième point, c'était par rapport à l'organisation de la représentativité. C'est mon point de vue et je vous le donne aussi, c'est la représentativité à grande échelle, ça ne marche pas. On ne peut pas espérer... encore une fois, c'est mon idée, peut-être que vous avez des contre-exemples et je serais très heureux de les prendre. À grande échelle, la représentativité ne marche pas parce qu'une personne humaine est un être limité et en ce qu'il est limité, ne peut pas représenter une quantité de gens, une quantité de gens trop importante. C'est quand on dit que Emmanuel Macron est le représentant des Français, bon déjà ça fait rire un peu à peu près tout le monde je pense ici, mais quand bien même il représenterait bien une grande partie de la population française, il ne représente pas non plus tous les Français. Donc il y a vraiment un besoin, selon moi, de revenir à de l'échelle locale. Je ne suis pas du tout pour un fédéralisme à l'allemande, hein, loin de là, mais il y a besoin de revenir dans des choses beaucoup plus locales, beaucoup plus ancrées dans les territoires pour avoir justement accès à cette démocratie. Parce que ça peut venir, de mon point de vue, que des gens, en fait, et pas de gens qui se targuent d'être représentants de ces gens.
Il y a des événements incroyables et les rendre un peu émotifs et montrer qu'on gagne et qu'on a de la force. Et du coup, là, le sujet, c'était la représentativité, le RIC. Et on traite l'événement le 15 décembre d'un discours de Liver qui s'unissent autour de maintenant, on met le mot d'ordre, c'est on s'unit tous derrière le RIC Et ça, c'est la revendication qui nous unit tous. Et pour de vrai, ça a donné beaucoup de force au mouvement. Et mais je pense qu'on peut être critique et dire que même si un RICS, un référendum, ça peut avoir la capacité de destituer peut-être un président, peut-être que c'est la seule issue pour la Nouvelle-Calédonie, par exemple, si elle veut se séparer de la France. Mais à quel point est-ce qu'on peut vraiment instituer une autre société et décider collectivement ? Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui a été un peu agité pour justement ne pas avoir à travailler et transformer cette future société. Et du coup, voilà, c'est ce truc ambigu de ça nous a quand même unis. Et même si on était divisés, eh ben, on marchait quand même ensemble. Mais du coup, est-ce que les Gilets jaunes, c'était de créer voilà, une vraie démocratie, de travailler sur des outils ? Et ce que je dis, c'est complètement en contradiction avec ce que j'ai fait. Moi, j'ai participé à pas mal d'assemblées. Et c'est mes meilleurs moments dans le mouvement Gilets jaunes. Et pourtant, dans le film, ça apparaît moins d'une minute au total. Donc le film ne cherche pas du tout à s'étendre sur le vrai débat, les contre-grands débats. Il y a eu des calculs algorithmiques pour voir c'est quoi que les gens y veulent, c'est quoi qu'ils pensent, qu'ils sont vraiment pour les services publics et ils sont aussi contre les taxes, certaines taxes, et du coup montrer des vérités. Et du coup, est-ce que le travail des Gilets jaunes, bah, c'était de perfectionner ce travail et dire voilà, regardez, on est des bons citoyens, on a fait le bon vote mathématique, alors que le premier jour, ça avait été fait. En fait, le premier jour, tu as 365 votants à Toulouse qui votent. En fait, il y a des trucs qui étaient... En fait, et on a refait ça plein de fois. Et du coup, le film, il essaie plus, peut-être par facilité, hein, parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué de s'organiser comme ça. Mais le film cherche plus à montrer des moments de force et pour développer cette croyance que voilà, on peut gagner. Et sinon, qu'est-ce que ça veut dire gagner ? Moi, je situe peut-être cette réponse voilà, complètement ailleurs. Bah, faut peut-être radicalement défendre qu'on est contre la propriété privée des moyens de production, la société de classe, contre la bourgeoisie. Et défendre en fait ces idées jusqu'au bout et pas les compromettre pour pouvoir rentrer dans le système citoyen qui est contrôlé par la bourgeoisie et les médias qui nous demandent en fait toujours le compromis et du coup qui nous empêchent d'avoir cette radicalité de revendication.
Déjà sur ce que tu viens de dire là, sur la partie de l'objectif entre guillemets plus ou moins anticapitaliste, la question des propriétés privées et tout ça, tout ça c'est des lois au final. Donc si on veut influencer dessus, il faudra changer les lois. Et donc il faut se donner les outils de discussion et de changement en fait de ces fameuses lois. Donc on retombe encore une fois sur la gouvernance, quoi. Alors la gouvernance à grande échelle sur la représentativité, je ne sais pas si vous connaissez la CCC, la Commission citoyenne pour le climat. Donc c'est des gens qui ont été tirés au sort pour faire tout un travail sur l'écologie et qui ont proposé je ne sais plus combien de mesures, une centaine de mesures je crois. Et ces gens-là n'étaient pas forcément des experts en écologie, ils n'étaient pas écolos et pourtant ils ont sorti un travail collectif. Bien meilleur que nos deux députés en assemblée, hein, à l'Assemblée nationale. Et ces gens-là, sur un domaine donné, ont réussi à faire un travail d'excellence, enfin un très bon travail. C'est des gens qui sont tirés au sort. Et ça, c'est pareil. Le tirage au sort, c'est un deuxième outil qui est super puissant pour la démocratie, parce que justement, ça nous protège un peu de la corruption, ça nous protège d'une caste politique, c'est toujours les mêmes qui nous dirigent depuis 40 ans. Le tirage au sort est vraiment super puissant aussi comme outil. Et on peut... La question de la représentativité, c'est comment on choisit nos représentants, comment on les contrôle. Aujourd'hui, il y a zéro contrôle. Donc il faudrait à minima avoir des assemblées de contrôle de nos dirigeants et de pouvoir les sanctionner. Et le RIC qui est révocatoire, c'est un outil de contrôle. Donc un dirigeant qui ne ferait pas ce qu'il a, pour lequel il a été élu se verrait très vite contrôlé par un RIC ou par une assemblée de contrôle tirée au sort. Et du coup, il travaillerait plus vite pour les intérêts collectifs et des communs que pour ses intérêts personnels. Quoi. D'ailleurs, le RIC en Suisse, il est au niveau régional, donc c'est quand même déjà des grands... Ça fait déjà du monde à aller voter. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, plein de trucs, mais je vais repasser la parole.
Tout ça, ce sont des outils. Ils appartiennent à personne. Et tout à l'heure, j'ai pu entendre dire que le RIC était du côté de l'extrême droite. Nous, on ne l'est pas du tout. Hein. On ne l'est pas du tout.
Justement, ça rebondit bien à ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait d'objectifs. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce documentaire, ça a été le moment où on a, en tout cas tel qu'il a été construit, on n'a pas hésité à montrer la friction interne, surtout concernant, pour moi, je pense que c'est primordial, les questions liées au fascisme et au racisme. Et parce que de toute façon, dès le début de ce mouvement, médiatiquement, il a été minimisé par cet aspect-là, qu'il rassemblait en tout cas des personnes qui n'avaient rien à voir. Et justement, en termes d'objectifs, il y a non seulement pour moi une lutte qui oppose le prolétariat et le capital, en tout cas, les détenteurs du capital. Mais il y a aussi quand même, de réaffirmer une idéologie antiraciste et antifasciste, quoi. Si je reviens à ce qui se passe actuellement aussi, on voit très bien comment le capital, en fait, flirte tout à fait avec le fascisme et le racisme dans sa mise en application. Par exemple, le 1er mai, d'habitude, le RN, il se réunit, à Paris devant... Ouais, c'est ça, devant la statue de Jeanne d'Arc, c'est ça. Et là, c'est les camarades du Havre qui m'ont dit ça. Ils se réunissent au Havre. Grande, par son histoire, grande ville du travail, quoi. Et je pense qu'il y a quand même, une volonté, en tout cas, pour le RN, de s'asseoir, en tout cas, sur des zones liées au monde prolétaire, quoi. Et après, c'est ouvert. Moi, j'aimerais bien entendre parler les gens qui l'ont vécu à ce moment-là aussi. Il s'est posé quand même la question en interne de qui on avait devant nous, quoi.
Par rapport au fait que moi, en tant que personne queer, le fait que je me reconnaisse en tant que prolétaire aussi, en tant que gilet jaune, en tant que personne qui est dans la précarité, non seulement par mon statut d'étudiant, mais aussi par le vécu que j'ai eu au sein de ma famille, c'est-à-dire que ma mère était soignante. Donc on est sur des chemins de vie qui sont impactés par la politique de casse sociale que mène notre président actuellement encore aujourd'hui. C'est, pour moi, ça a été réellement insupportable psychologiquement de voir que des médias mainstream se permettaient de récupérer mon orientation sexuelle et celui de mes confrères, de récupérer... même des combats, qui sont justement des combats raciaux auxquels je n'appartiens pas. Et c'est vraiment constamment insupportable d'être pris comme ça par ces gens-là qui se prétendent être les défenseurs des juifs, des noirs, des homosexuels, alors qu'en fait, ils ne défendent que des intérêts économiques capitalistes. Et nous, en tant que personnes queer, nous, en tant que personnes éventuellement racisées, tu pourras en reparler si tu veux, on a juste ras-le-bol, quoi. Genre, c'est pas nos combats, au contraire, bien au contraire même, j'ai envie de dire. Voilà.
Enfin, en fait, le truc de la réforme, en fait, dans la Constitution, par exemple, là, il y a un truc au Sénat qui est passé, contre la BRAVEM. Bon, ça, en fait, si en une semaine, il y a 5000 signatures, ils sont obligés d'en faire quelque chose. Il y a un organe qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Si on peut faire des saisines. D'ailleurs, la Manif pour tous a essayé de faire une saisine de ce Conseil économique, social et environnemental. En fait, des outils démocratiques de référendum, etc., ils existent, mais on ne s'en saisit pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, juste les systèmes d'oppression, les systèmes de domination, ils sont là, ils sont en place. Même là, par exemple, on a fait un débat démocratique. Qui est-ce qui a parlé le plus ? Qui est-ce qui a parlé avec quel langage ? En fait, si on nique pas les systèmes d'oppression, les systèmes de domination, la bourgeoisie, le capitalisme, tous ces trucs-là, on aura beau avoir un top moumoute système technocratique de décision où la parole individuelle est prise en compte, etc. etc. En fait, on ne changera pas le monde. Enfin, le monde ne va pas changer. On va juste continuer à être dans un système productiviste. On va continuer à être dans... En fait, on va continuer à être en colère. On ne sera pas heureux. Et on va continuer à voir des gens mourir avec des outils qu'on aura choisis. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, dans ce monde-là, les outils démocratiques... C'est juste un piège de plus pour contre nous en fait, contre nous, contre le vivant, contre tout le monde, et on peut pas. Enfin, franchement, dans un autre monde, je serais trop d'accord d'avoir un super système de décision coopérative, inclusif, tout ça, mais juste là, j'ai l'impression que c'est pas ça qui peut se passer et c'est pas ça qui va exister pour le futur. Et c'est. Enfin, j'aurais, par exemple, si je m'investissais plus là-dedans, j'aurais juste. C'est vain, enfin, c'est. Désolée de le dire comme ça, mais c'est vain et je pense pas que. C'était vain de la part des Gilets jaunes de le faire et c'est pas une question de mépris ou quoi, mais je pense que ouais, c'était une manière de détourner la colère. Enfin, les gens aussi, moi j'ai pas participé au mouvement des Gilets jaunes, mais j'ai vu ce que ça avait produit chez des gens. Il y a plein de gens qui se sont reconnus, en fait, qui ont réussi à trouver une existence politique, en fait, de plus être assujettis, en fait, qui se sont retrouvés vraiment sujets. Enfin, j'ai l'impression que les mouvements populaires comme ça, ils arrivent à dépasser. Enfin, ils arrivent à créer des solutions aussi à d'autres moments. D'ailleurs, je trouve ça trop intéressant. Enfin, moi, je savais pas du tout que les premiers ronds-points occupés c'était à La Réunion. Et je trouve ça cool que le film le montre et montre aussi des perspectives un peu internationales. Parce que, en fait, si je me revois, moi, ma vision des Gilets jaunes à l'époque des Gilets jaunes, j'avais pas du tout idée que c'était ça. Donc ça. Bravo.
Je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Sinon, qu'il y a juste un truc technique. Bah, tu as employé le terme de. On pourrait mettre en place tout un tas de trucs avec une grande technicité, tout ça. Enfin, c'est peut-être pas le terme que tu employais, je sais plus. Mais que pour arriver à ça, il faudrait déjà une révolte de ouf qui implique qu'il y ait déjà tout un tas de changements sociaux et politiques qui auraient été dépassés, quoi. Mais ça ne retire rien à ce que tu as dit, je crois. J'ai envie de rebondir aussi encore sur revenir sur ce truc de RIC pour parler de questions stratégiques aussi. C'est que moi, effectivement, je pense que le RIC est comme n'importe quel outil, donc dit démocratique, en tout cas dans un contexte de démocratie représentative, c'est la représentativité le problème, c'est le fait de déléguer le pouvoir. Et qu'on a des exemples historiques qui montrent qu'il n'y a pas besoin d'annoncer la fin de l'État pour abolir l'État. La Commune de Paris, typiquement, 71, la chute de la colonne Vendôme, elle n'a pas été annoncée, on n'a pas dit on va faire ça. Pendant 2 ans, les gens ils se sont organisés en quartier, et au moment du 18 mars, en fait, l'État était aboli de fait. Et en fait, les choses se font parce que pratiquement, on en a besoin, de manière pratique, et pas parce qu'on a pensé tout un programme politique de comment est-ce que ça allait être le mieux que ça se passe, quoi. Et par ailleurs, dans ta défense du RIC, tu as pas arrêté de. Enfin, le terme que tu as employé le plus, c'est le terme de gouvernance. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur Internet. Le Point, par exemple, propose une définition très pertinente, puisque ça les concerne directement, puisque c'est un terme qui est issu du FMI et de l'OMC. Qui a été intégré dans les années 90 dans les entreprises, de manière à faire croire aux gens qu'ils ont du pouvoir sur l'action de l'entreprise et à créer un esprit de communauté et d'équipe, en fait, entre les gens. Ensuite, ça s'est déplacé en France, dans les institutions communales notamment, par là, dans les associations. Du coup, aujourd'hui, on emploie le terme de gouvernance comme si c'était OK, que c'est juste une manière de diriger ensemble, de savoir comment on allait faire les choses. Non, en fait, et tu as employé aussi ce terme, le terme de contrôle. En fait, c'est pas une question de contrôler les représentants, c'est qu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de représentativité tenable dans un système démocratique, selon moi. La démocratie, c'est démos le peuple, crassis le pouvoir, on a le pouvoir, en fait. C'est pas un truc de, on le délègue pas, en fait, on ne vote pas pour d'autres gens. Il y a des contextes dans lesquels il peut y avoir cette nécessité-là, mais en fait, le problème de la représentativité, c'est la professionnalisation. C'est le fait qu'il y ait des gens qui vont savoir à notre place ce qui est bien pour eux, quoi, en fait, et quelle que soit leur révocabilité. En fait, on peut parler de porte-parole, ça me paraît plus intéressant, et d'huiler les machines administrativement par des personnes qui n'ont pas de potentiel pouvoir, qui n'ont pas la possibilité de prendre des décisions à la place des autres. En fait, tout doit se faire en assemblée. Ça, c'est démocratique. Enfin, voilà. Après, il y a plein d'assemblées différentes. Il y a plein de manières de prendre des décisions différentes. Et même une assemblée n'est pas un absolu démocratique non plus, parce que, comme tu le soulignais tout à l'heure, dans une assemblée, il y a aussi des rapports de domination. Des rapports de pouvoir entre les gens, qu'ils soient partisans ou pas partisans, enfin, partidaires ou apartidaires.
Moi, je voulais répondre tout à l'heure au début, en fait. Tu as posé une question de qu'est-ce que ça avait apporté le mouvement. La première chose principale pour moi au niveau du mouvement, ce qu'il a pu apporter, c'est retrouver un contact humain qui était dissous depuis les années 95, la mise en place de la télécommunication portable. Donc déjà, ça, c'est le vraiment premier pas. La première étincelle, elle est là. C'est-à-dire que cette cohésion qui s'est recréée, elle est toujours présente. Même les gens qui aujourd'hui sont re-rentrés dans leur vie active, ont gardé des liens extérieurs, ne font plus que maison, boulot, dodo. Ils ont quand même rattrapé une vie extérieure qui était perdue déjà depuis des décennies en arrière. Quoi. Ensuite, je vais revenir sur effectivement ce que tu disais, comment on fait pour avoir une représentativité comme ça. Alors, effectivement, l'ADA, elle n'est pas bien développée, et après, ça serait peut-être long à développer aussi. Maintenant, le principe de l'ADA, c'était simple. Sans être chef, on va revenir sur une base de l'anarchie, qui est un mandat rotatif, impératif et révocable. D'accord ? Donc, chaque point de blocage avait nommé des personnes, eux-mêmes, volontairement, qui étaient rotatifs. D'accord. Alors certains ronds-points, certes, avaient les mêmes personnes qui se redéplaçaient sur les ADA. Les ADA, en amont, préparaient des ordres du jour qui étaient desservis à chaque rond-point pour que ces ronds-points puissent travailler en amont et que chacun puisse donner son avis, sa décision, et de là, remonter l'info à l'ADA. Chaque rond-point arrivait avec ses... L'erreur est humaine, il peut y avoir des erreurs de n'importe quelle... Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, tu reviens avec une erreur dans ton rond-point, tu ne feras pas la prochaine. Donc, l'horizontalité, elle existe. Impossible, ce n'est pas français. Voilà. Donc, l'horizontalité, elle est tout à fait faisable. Il faut utiliser une fois de plus les bons outils. Voilà. Moi, j'entends effectivement... Moi, le RIC, je le dis clairement, et je l'ai dit depuis le début, j'étais pas pour le RIC. Voilà. C'est vraiment pas pour moi une solution, parce que c'est un outil d'État, ni plus ni moins. Un outil d'État que moi j'aime bien, c'est celui qu'ils ont. C'est par exemple le 49-3, qui ne devrait pas appartenir au gouvernement, mais au peuple. C'est-à-dire que les intellos, dits intellos, réfléchissent à des lois, ça ne convient pas au peuple. 49-3, voilà. Ton mandat, il va pas, rotatif, impératif, tu dégages.
Ce que tu viens de dire, le 49-3, si tu n'es pas d'accord sur une loi, bah typiquement, le RIC, c'est ce qu'il propose. Réforme d'initiative citoyenne. C'est les citoyens qui ont l'initiative de dire « Non, cette loi-là ne nous plaît pas, on la refuse. » Et on demande au peuple, donc à l'ensemble de la société, donc ça c'est démocratique, de voter sur le référendum. Donc c'est ce que tu viens d'appeler 49-3, moi je l'appelle RIC. Donc je pense que là-dessus, on est plutôt d'accord, enfin j'imagine. Alors après, c'était sur la notion de gouvernance. Bah, le RIC, quand le peuple vote, c'est faire un choix. Donc si tu as un choix que tu appliques derrière, c'est mettre en œuvre une décision. Donc c'est... Alors tu mets un autre mot si le mot gouvernance ne te plaît pas, mais si tu donnes l'opportunité au peuple de choisir un sujet, de dire ce sujet-là, on veut légiférer dessus, et on va demander à l'ensemble de la société, du peuple, de voter, si on le prend ou on ne le prend pas, c'est redonner du pouvoir au peuple. Mais quand tu prends un truc plus large, par exemple, je parlais de l'Assemblée nationale, tu parlais de la représentativité tout à l'heure, et j'ai parlé moi derrière du tirage au sort d'Assemblée, notamment la CCC qui a fait un très bon travail, qui ont montré que même des gens non professionnels ont fait du très très bon travail. Et ben, le tirage au sort est un deuxième outil super puissant qui responsabilise les gens, parce que les gens, ils l'ont pris vraiment au sérieux, ils ont fait ça en dehors de leur... Enfin, ils n'étaient pas payés pour, ils avaient leur travail, ils bossaient le soir et le week-end pour faire tourner la CCC, là, et ils ont fait un super boulot. Donc ils ont été vraiment responsabilisé du fait d'avoir été tiré au sort sur un sujet. Et donc je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas des professionnels à la politique, je l'ai dit tout à l'heure aussi, on a une caste de politiques professionnels qui font carrière et qui travaillent pour leurs intérêts ou ceux de leurs proches, donc il y a du copinage. Donc là-dessus je suis contre aussi. Le contrôle c'est justement de dire, si tu fais, par exemple l'exemple sur les ronds-points, quand tu donnes un mandat à quelqu'un, un mandat impératif, eh ben c'est bien de savoir s'il fait bien son boulot. Donc forcément, tu as quelqu'un qui va regarder s'il fait bien son boulot. Donc ça, c'est ce que j'appelle le contrôle, quoi. C'est pas méchant, hein. Moi, je fais un travail, mon chef, il me contrôle, mais voilà.
Il y a des comptes rendus qui sont faits. Voilà, tous les comptes rendus étaient rentrés. Et c'est pas une question d'avoir une autorité ou un chef qui vient vérifier. C'est juste une logique dans le sens où tu as fait un travail, tu es parti pour faire un travail, pour représenter effectivement le groupe où tu étais, maintenant tu reviens avec le compte-rendu, tu as effectivement ce que tu as dit, ce que les autres ont dit.
D'accord.
Le travail, il est là, c'est pas une surveillance sur la personne. Quand je parle de faire évacuer une personne, effectivement, si la personne, elle y va, et elle parle en son nom et non pas au nom en représentativité des gens qui les ont nommés, il y en a, ils l'ont fait aussi. Amstram, Graham, c'est toi qui ire, ils l'ont fait aussi comme ça.
C'est pareil, si quelqu'un est nommé pour aller représenter un groupe, et cette personne-là, c'est pas elle qui fait le compte-rendu, c'est quelqu'un d'autre. Parce que si elle dit A et que le compte-rendu dit B, tu vois ce que je veux dire, c'est que le compte-rendu est forcément fait par quelqu'un d'autre, d'externe. Sinon, si la personne elle ment à l'AG qu'elle est censée représenter et qu'elle fait le compte-rendu en disant « Si, j'ai bien dit ce que vous m'avez demandé », t'es d'accord qu'il y a un problème. Donc si le compte-rendu est fait par la même personne, il y a un problème. Donc si elle est fait par quelqu'un d'autre, c'est une forme de contrôle. Enfin, on retombe sur...
Je voulais revenir sur une question sémantique. En tant que prof de langue, c'est des formations professionnelles. Ce qui a été dit sur la gouvernance tout à l'heure m'a beaucoup intéressé. C'était sur le terme fascisme, racisme, fascisme. Moi, je suis toujours gêné, en fait, de l'emploi du terme fasciste ou fascisme pour désigner les populismes de droite, d'extrême droite, pardon, pour désigner les populismes d'extrême droite. Je trouve que c'est toujours... C'est contre-productif, je pense que tout le monde le sait, de stigmatiser les personnes qui appartiennent, par exemple, au Rassemblement National, de les stigmatiser comme fascistes. Je trouve que c'est très contre-productif. Je dis ça parce que je parle avec tout le monde. Alors, je précise juste, je suis un militant de gauche. non, mais je le dis. Je suis en grève reconductible depuis un mois. Je sais même que j'ai parlé avec des centaines de personnes, plusieurs centaines de personnes depuis un mois sur les filtrages le matin, tractage. J'y suis à chaque fois. Et justement, beaucoup de personnes qui se disent plutôt d'extrême droite. Voilà. Et voilà, ils reprochent beaucoup, justement, le fait d'être stigmatisés comme fascistes. Et je pense que ça les encourage. Ça les encourage dans leur radicalisation. Voilà, c'est tous. Ils me disent tous ça. Ils tiennent tous ce discours. C'est pour ça que je trouve ça important de le dire ce soir.
Je me permets un droit de réponse. Il y a deux termes qui ont été employés. Il y a le terme fasciste et racisme. Donc après, je demanderai même pas hein, aux gens qui d'extrême droite, auxquels ils se réfèrent. Et je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes que ça. En effet, on peut pas prendre des gens pour les cons. Mais en tout cas, faut les avertir sur la pente glissante, quoi. Et je reviens sur le terme fascisme. C'est pas du tout un terme qui a été dirigé vers les sympathisants d'extrême droite. C'est un terme qui se focalise sur une personne qui a l'exercice du pouvoir, même si à l'origine c'est un terme qui est né de Mussolini et le fascisme italien, les faisceaux, on sait tout ça. Je pense qu'il n'est pas non plus anodin de se retrouver dans certaines configurations historiques où, on va dire, une population, on va dire, clairement, hein, des personnes, des opposants politiques d'extrême gauche sont nommés comme ultra. Des sympathisants intellectuels sont aussi ciblés et on a tendance un pouvoir médiatique est tordu pour correspondre au modèle normatif, quoi. C'est des agissements tendancieuses et que moi j'assimile que je tourne vers le fascisme, qui ressemble en tout cas au modèle qui ont déjà existé auparavant. Il y a des ressemblances.
Moi, j'ai pas du tout envie d'être sur ce terrain-là, en fait. Je crois que si on oppose idéologie contre idéologie, on va jamais s'en sortir. C'est-à-dire que là, en fait, tout est fait pour diviser toujours plus. Et en fait, je voulais dire des choses, mais excuse-moi, tu voulais parler avant moi.
Je reprendrai après. Mais justement, moi, ça me paraît, juste avant que tu t'interviennes, moi, ça me paraît très, très important de réaffirmer, comme mon camarade tout à l'heure disait, moi, je me sens pas victime de racisme, donc limite, c'est des choses qui... C'est pas mon combat, non. Pour moi, c'est vraiment l'affaire de tous. Et pour moi, c'est vraiment des questions fondamentales qui ont lieu, qui touchent à notre humanité. Et c'est ce qui a permis aussi, dans ce que j'ai trouvé très beau dans les images que j'ai vues, c'est que ça commence à La Réunion. Et du coup ça touche l'hexagone, et c'est la diversité dans les gens qu'on voyait aussi dans la rue, la diversité, il y a eu les gilets noirs aussi qui ont repris ça, la diversité aussi dans la culture gilets jaunes. Enfin, il y a eu du rap dessus, il y a eu du reggae dancehall sur les gilets jaunes, enfin. Bah, c'est ce qu'on a entendu, en tout cas. Et oui, moi, je trouve que là, on est à un temps où, en fait, si on décide pas de porter des valeurs, que la valeur antiraciste et de solidarité est fondamentale, vraiment, parce que bientôt, je suis désolée, quand on se battra pour l'eau, et qu'on est déjà en train de se battre pour l'eau, et qu'on dira que l'eau, c'est pour les Français, là, faudra vraiment se poser des questions, tu vois, aussi. Donc, moi, je pense que Nos luttes, en tout cas, doivent avoir comme fondement le partage et la solidarité avec toutes les causes, et dont principalement l'antiracisme. Pas juste parce que je suis noire.
Oui, pour continuer sur ce que tu dis, en fait, faut aussi faire un peu un grand tableau, là, continuer le grand tableau que tu as fait. En fait, là, en ce moment, il y a des glissements sémantiques. Il y a un bouquin de Ugo Paglietta qui s'appelle « La possibilité du fascisme ». En fait, si on regarde à des cas historiques similaires, comme tu dis, en fait, là, on est vraiment sur la pente descendante. Il y a 5 millions de voix d'écart entre... Bref, je sais plus. En tout cas, si vous faites une courbe entre 2000 et 2027, là, les prochaines élections, et ben en fait, à chaque fois, il y a moins 5 milliards ou millions de voix, je sais pas combien d'années, mais milliards, millions, bref, millions de voix entre Macron et Le Pen. Et juste, ça, c'est tchouk, c'est mathématique, quoi. Et du coup, pareil, si on regarde aussi les armes qui ont mutilé et blessé les gilets jaunes, c'est des armes qui ont été testées dans les quartiers populaires, c'est des armes qui ont été testées en Outre-mer, etc. etc. En fait, il y a aussi des choses sur... il y a des positionnements à faire. Si on ne parle pas dans ces cas-là, si on ne prend pas position, ça devient problématique, parce qu'il y a un travail de culture, il y a un travail... Marion Maréchal-Le Pen, elle est trop fan des théories de Gramsci qui disent qu'il y a un mec qui luttait contre... qui était un Italien d'extrême-gauche, entre guillemets, et qui disait « Oh, il faut pour l'extrême-gauche, il faut pour le communisme un terreau culturel favorable à l'apparition d'une nouvelle société. » Et en fait, le Front National, il n'a qu'une chose à faire en ce moment, c'est s'asseoir sur une chaise, regarder ce qui se passe et recycler tout ce qui se passe. Et du coup, il faut être hyper vigilant, il faut être toujours hyper vigilant. Et si on ne prend pas position, si on nomme pas ce qui doit être nommé, on est complice. On est spectateur, on est complice et on va pas vers un changement. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas comme tu disais, comme tu l'as dit et comme tu l'as dit aussi. C'est pas taper les individus, les petites gens, etc. C'est juste vraiment regarder c'est quoi les dynamiques de pouvoir et à quel moment on peut être vigilant et aussi entre. Casser ce terreau favorable au fascisme qui est... On est pile dedans, quoi. Genre, vraiment, les bourgeois, là, ils s'en foutent qu'on pille... Enfin, quand on va avoir des stress au niveau de l'eau, au niveau des ressources naturelles, ils vont utiliser tout pour, eux, réussir à capter un max et diviser, et que ce soit par des notions de nationalisme, de patriotisme, de racisme, contre les gays, voilà. Contre les handicapés, etc. En fait, ça va aller. Et on l'a vu aussi, en fait, nous, en Europe, on a une histoire qui est plutôt liée à la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Mais en fait, si on regarde aux États-Unis, quand un peu un État qui était semi-social, il est devenu policier sous Reagan, Nixon, etc., qui est-ce qui a morflé ? Les populations racisées. Qui est-ce qui allait en prison ? Les populations racisées. Qui est-ce qui a eu le sida ? Les PD. Enfin, voilà. En fait, il faut aussi avoir un grand cadre historique. Et pas oublier d'où on vient, où on va, et surtout pas se faire emmêler par ce qui se passe, par les mots qui changent, qui glissent, quoi.
Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que le débat s'est tourné autour du film L'histoire des Jeux par nous, qui est accessible sur le site yellowveststories.noblogs. Vous pouvez tout simplement taper L'histoire des Gilets jaunes par nous sur Google ou DuckDuckGo ou un autre moteur de recherche et vous trouverez facilement le film. Donc encore une fois, merci à Rennes de nous avoir invités dans ce mouvement social. On s'est un peu invités un peu par nous-mêmes. Et du coup, merci à l'AG de la MDP d'avoir organisé l'événement à l'Atelier du Vent. Et vraiment une super salle pour faire une projection de film. Et du coup... Merci à toi. Et voilà, cet enregistrement se situe dans un contexte du mouvement social contre la réforme des retraites. Demain, c'est le 12 avril.
Demain, c'est le 12 avril. De quelle année ?
2023. À bientôt.
R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.